VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonjour à tous et à tout le monde aujourd'hui, édition du vendredi 28 septembre 2018, en direct de Washington, Idrissa Sedoulia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
En République démocratique du Congo, autorisation du meeting prévu demain à Kinshasa par les principaux partis d'opposition.
Guinée, des ONG réclament la tenue du procès des inculpés dans le massacre de septembre 2009 dans un stade de Conakry.
Ici à Washington, la commission judiciaire du Sénat va voter aujourd'hui sur la nomination de Brett Kavanaugh à la Cour suprême après avoir entendu hier le juge et son accusatrice.
Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu accuse Téhéran d'abriter un site de stockage atomique secret.
Au Canada, les députés retirent sa citoyenneté d'honneur à Aung San Suu Kyi pour refus de dénoncer le génocide des Rohingyas musulmans en Birmanie.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
En République démocratique du Congo, un meeting des principaux partis d'opposition prévu demain près du siège du Parlement national a été autorisé. Une décision qui intervient à moins de 3 mois des élections, Abdourahmane Dia.
L'opposition, qui est engagée dans un processus de désignation d'un candidat unique à la présidentielle du 23 décembre, avait informé le gouverneur de Kinshasa de la tenue le 29 septembre d'une réunion publique. André Kimbuta a donc répondu favorablement, demandant toutefois à l'opposition de veiller au strict respect des dispositions de la loi régissant les manifestations et réunions publiques. La campagne électorale doit s'ouvrir le 22 novembre, même si des contestations persistent autour de la procédure de vote, notamment sur l'utilisation d'une machine à voter et le fichier électoral. D'ailleurs, dans la journée d'hier, une vingtaine de jeunes du mouvement Lutte pour le changement, Lucha, ont été interpellés alors qu'ils manifestaient devant le siège du gouvernement contre la machine à voter que la commission électorale compte utiliser lors des élections de décembre. Lors de son discours à la 73e Assemblée générale de l'ONU à New York, le président Joseph Kabila, qui ne va pas se représenter, a réitéré l'organisation d'élections sans l'appui financier de la communauté internationale ainsi que le respect de la loi électorale.
Le président centrafricain Faustin Archange Touadéra a déclaré hier que la médiation pour une paix dans son pays relève de l'Union africaine. Selon lui, l'implication récente de la Russie dans des pourparlers avec des groupes armés n'avait qu'un but de facilitation. M. Touadéra a parlé à l'issue d'une réunion tenue à New York en marge de l'Assemblée générale de l'ONU. La Russie n'a pas participé à cette réunion.
Pour sa part, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, s'est entretenu hier, toujours à New York, avec le président togolais, Fornia Singbe. À cette occasion, M. Guterres a souligné l'importance de poursuivre au Togo le dialogue politique interne en vue des élections législatives prévues en 2018. Mercredi, la principale coalition de l'opposition a appelé au boycott du recensement électoral qui doit débuter le 1er octobre en vue des élections législatives et locales.
5 ONG guinéennes et internationales ont réclamé hier la tenue d'un procès, la tenue l'an prochain du procès emblématique du massacre de septembre 2009 dans un stade de Conakry où plus de 150 opposants avaient été tués et une centaine de femmes violées. Le point avec Morgane Guériec.
L'instruction sur le massacre du stade du 28 septembre 2009 est clôturée depuis fin 2017. Personne n'a encore été jugé en Guinée, selon 5 ONG, dont Amnesty International et Human Rights Watch. Pour ces organisations, il est impératif que les juges soient nommés et qu'un calendrier soit établi pour que le procès puisse s'ouvrir en 2019 et que les 13 inculpés soient enfin jugés. Le ministère de la Justice a mis en place un comité de pilotage chargé de préparer le procès. Ce comité devait se réunir toutes les semaines, mais ne l'a fait que 2 fois en 6 mois. Le 28 septembre 2009, des militaires avaient tué au moins 157 personnes et violé 109 femmes dans un stade de Conakry. Ces personnes manifestaient contre la candidature à la présidentielle du chef de la junte de l'époque, Moussa Dadis Camara. Moussa Dadis Camara vit en exil au Burkina Faso. Son ancien aide de camp, Aboubacar Sidiki Diakité, dit Toumba Diakité, extradé du Sénégal vers la Guinée en mars 2017, fait également partie des prévenus.
En Mauritanie, les autorités ont retiré l'agrément à l'université privée Ibn Yassine, proche des islamistes, après avoir fermé lundi un centre d'enseignement théologique qui lui est lié, a indiqué jeudi un porte-parole du gouvernement. Le conseil scientifique de l'université Ibn Yassine est présidé par l'érudit Mohamed El Hassen Ouldeda, qui serait proche des frères musulmans, sinon leur principal théoricien dans le pays. La semaine dernière, le président Mohamed Oubd Abdelaziz avait lancé une mise en garde contre l'islam politique.
Et au Mozambique, des dizaines de personnes ont attaqué jeudi un commissariat dans le nord pour demander à la police de leur livrer un des djihadistes présumés qui sème la terreur dans la région. Elles ont accusé les autorités de ne pas assurer leur protection. Un groupe de jeunes musulmans radicaux anti-gouvernementaux ont tué une cinquantaine de civils dans les villages de la province du Cabo Delgado, visés depuis plusieurs mois.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Ici aux États-Unis, la bataille pour la confirmation du candidat du président Donald Trump à la Cour suprême s'est poursuivie jeudi devant la commission judiciaire du Sénat. Christine Blasey Ford s'est déclarée sûre à 100% d'avoir été agressée dans sa jeunesse par le juge Brett Kavanaugh. Lui se pose en homme blessé et proteste avec véhémence de son innocence. Leurs vérités irréconciliables se sont heurtées hier devant la nation américaine. Le point avec Jean-Roger Bion.
Elle en toute retenue, lui en toute indignation, le juge Kavanaugh et son accusatrice Ford ont été auditionnés pendant de longues heures par la commission judiciaire du Sénat. Cette dernière a prévu de voter dès ce vendredi sur la candidature du juge Kavanaugh avant un vote en séance plénière dans les jours suivants. Questionnée sur la possibilité qu'elle puisse se tromper d'agresseur, Christine Blasey Ford s'est dite absolument sûre qu'il s'agissait bien de Brett Kavanaugh et cela à 100%. Son image de conservateur catholique, bon père de famille, a été sérieusement écorné par le témoignage de Mme Blasey Ford et de deux autres femmes sorties de l'ombre dans la foulée pour l'accuser de comportement sexuel inapproprié. « Je n'ai jamais agressé sexuellement qui que ce soit, ni au lycée, ni à l'université », a rétorqué Brett Kavanaugh, réfutant point par point les accusations de Mme Blasey Ford et soulignant les imprécisions de son témoignage. Dénonçant un coup monté des anti-Trump et pro-Clinton, il a assuré qu'il ne céderait pas aux appels pour son retrait. Plusieurs républicains ont apporté leur soutien au juge Kavanaugh. Les sénateurs démocrates qui ont tous loué le courage de Mme Blasey Ford ont eux passé le juge au grill de leurs questions et ont notamment regretté à plusieurs reprises que le FBI n'ait pas pu mener d'enquête sur les accusations de Mme Blasey Ford.
Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a accusé hier l'Iran, carte à l'appui depuis la tribune de l'ONU, d'abriter un site de stockage atomique secret à Téhéran. À noter qu'en Israël, fin avril, M. Netanyahou avait fait d'autres révélations sur ce qu'il avait appelé les plans secrets du gouvernement iranien. Il a mis au défi le directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique d'envoyer des inspecteurs pour, je cite, « inspecter immédiatement ce site avant que les Iraniens ne le vident ».
Le président palestinien Mahmoud Abbas a refusé jeudi aux États-Unis un rôle de médiateur unique au Proche-Orient. La veille, le président américain Donald Trump avait promis un plan de paix équilibré dans les 4 mois, tout en se disant pour une solution à 2 États. Dans un discours devant l'Assemblée générale des Nations unies, M. Abbas a aussi accusé M. Trump de mettre en péril une telle solution et d'être revenu sur tous les engagements qui avaient précédemment été pris par son pays. Il a cité la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël, la fermeture du bureau de l'OLP à Washington et la fin de l'aide américaine à des millions de réfugiés palestiniens.
La Russie et la Chine ont appelé hier à l'assouplissement des sanctions internationales contre la Corée du Nord pour l'encourager à dénucléariser. Un tel appel, dit-on, risque de mettre en péril le consensus international concernant les pressions sur Pyongyang. Intervenant lors d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU sur la Corée du Nord, le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, a demandé à ses homologues de se rappeler que les progrès réalisés jusqu'ici sont à imputer à la campagne internationale historique rendu possible par le Conseil de sécurité grâce aux sanctions qu'il a imposées.
Au Canada, les députés ont approuvé à l'unanimité hier une motion révoquant la nationalité canadienne honorifique accordée à la dirigeante birmane Aung San Suu Kyi, et ce en raison de son refus de dénoncer le génocide de la minorité musulmane des Rohingyas. La Chambre des communes avait accordé ce privilège à Aung San Suu Kyi en 2007, alors que la lauréate du prix Nobel de la paix était emprisonnée en Birmanie.
Après la signature samedi d'un accord historique encore incomplet avec la Chine, le Vatican négocie discrètement une reconnaissance par Pékin des évêques clandestins restés fidèles au pape pendant des décennies, malgré les brimades, selon des sources proches du dossier. Le pacte provisoire signé samedi à Pékin entre le Vatican et la Chine communiste a permis une reconnaissance du droit de veto du pape sur la nomination des futurs évêques chinois, prérogative bafouée depuis la prise du pouvoir par les communistes. Le pape François a de son côté reconnu 7 évêques chinois nommés unilatéralement par l'État chinois sans son aval, prenant ainsi sous son aile l'ensemble de l'épiscopat du pays.
En France, la popularité d'Emmanuel Macron s'est à nouveau érodée en septembre, le président français ne recueillant désormais que 32% de bonnes opinions, un plus bas historique depuis son élection, au même niveau que son prédécesseur en septembre 2013, selon un sondage. Fin de ce journal sur VOA Afrique, vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Nanit Talani.
La Banque mondiale accorde à la Somalie une subvention de 80 millions de dollars. Ils seront consacrés au projet de financement de la réforme, à la croissance des recettes intérieures et à l'amélioration de la gestion financière du pays. L'institution collaborera également avec Mogadiscio pour améliorer les secteurs de l'éducation, la santé, l'accès à l'eau potable, l'électricité et la finance. C'est une première dans le processus de reconstruction de la Somalie à qui la Banque mondiale avait retirer son appui financier depuis 1991. Le Programme alimentaire mondial annonce que le Soudan bénéficiera de 17,8 millions de dollars de la part de la Grande-Bretagne. C'est pour soutenir près de 93 000 exploitants agricoles soudanais et permettre à près de 24 000 familles de se créer de nouvelles activités génératrices de revenus afin de se prémunir contre les risques liés à une mauvaise saison agricole. Enfin, le Ghana qui renonce à l'émission d'un emprunt obligataire domestique d'une maturité de 5 ans en raison des mauvaises conditions du marché, selon une note adressée par le ministère des Finances qui prévoyait l'émission d'obligations du Trésor pour refinancer des dettes. Les taux entre 19,75% et 21,5% ont été jugés très élevés. Bank of Ghana a également précisé que le stock de la dette publique du pays a connu une hausse d'environ 1 milliard de dollars sur les 4 derniers mois.
À présent, les sports avec Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Football, l'ASEC Mimosa et son président ont été sanctionnés.
La Fédération ivoirienne de football a officialisé les sanctions qui vont frapper le club d'Abidjan et son président Roger Wenyen à la suite des propos jugés outranciers tenus par le dirigeant et du refus de son club de prendre part à la Supercoupe de Côte d'Ivoire début septembre. Monsieur Wenyen a écopé de 12 mois d'interdiction de stade et d'une amende de 5 millions de francs CFA. Pour sa part, l'ASEC est suspendue pour les deux prochaines éditions de la Supercoupe de Côte d'Ivoire et devra s'acquitter d'une amende de 5 millions de francs CFA.
Noël Tosi, nouveau manager général du Wydad Casablanca.
Le Wydad Casablanca change de stratégie après son élimination de la Ligue des Champions par l'entente Sétif d'Algérie, alors que le poste d'entraîneur a été laissé vacant par Abdelhadi Sétioui, qui assurait jusque-là l'intérim. Les dirigeants du club marocain ont annoncé la nomination de Noël Tosi comme manager général. Le technicien français de 59 ans retrouve ainsi l'Afrique où il a déjà travaillé. Noël Tosi a en effet été entraîneur du Congo et de la Mauritanie.
En Europe, l'Allemagne organisera l'Euro 2024.
Et oui, l'Allemagne qui était en concurrence avec la Turquie a été désignée pour organiser l'Euro 2024. La compétition réunira 24 sélections pour 51 rencontres disputées dans 10 stades, dont l'Allianz Arena de Munich et le Stade Olympique de Berlin. La dernière grande compétition organisée par l'Allemagne était le Mondial 2006. Le prochain Euro, en 2020, lui, sera organisé dans 12 pays. Le précédent en 2016 qui s'est tenu en France a été remporté par le Portugal.
Fin de parcours pour le Sénégal en Coupe du Monde féminine de basketball.
Le Sénégal a été éliminé par le pays organisateur, l'Espagne, 63-48. Les deux équipes étaient pourtant à égalité parfaite lors de la mi-temps avec un score de 34-34. Mais les Lyonnes sont revenues des vestiaires avec moins d'application et de combativité. Elles ont été logiquement larguées par les Espagnols. Les Lyonnes de la Teranga auront quand même fait une bonne Coupe du Monde FIBA 2018 et sortent par la grande porte de cette compétition.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Avec vous, Idrissa Sidoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Le département d'État américain et le gouvernement du Sénégal ont inauguré un nouveau lieu de formation régionale consacré à la lutte contre le terrorisme à Thiès. Ce nouveau centre a été financé, construit et équipé à travers le programme d'assistance antiterroriste du département d'État. Idriss Fall a fait le point avec Tulinabo Mushengi, ambassadeur américain à Dakar, de passage à Washington.
La sécurité, c'est une des priorités, une de nos priorités de la politique américaine envers l'Afrique. Et bien sûr, nous cherchons des partenaires avec qui travailler pour lutter contre le terrorisme. Le terrorisme qui est un fléau international. Tout le monde est d'accord que pour lutter contre le terrorisme, nous avons besoin l'un de l'autre. Les pays riches, les pays pauvres, les grands pays, les petits pays, les pays du nord, de l'est, du sud, du centre, nous tous, nous devons travailler ensemble. Donc, pour ce qui est de l'Afrique, pour former nos partenaires, pour essayer de travailler avec nos partenaires, il y a trois niveaux. Il y a la formation, il y a l'équipement et il y a le partage de renseignements. Mais pour faire ça, on ne peut pas tout faire à l'étranger. Il faut essayer de voir comment nous pouvons travailler ensemble sur place. Ça va être un centre de formation régionale pour la région. Donc, au lieu que les gens soient... Bon, ils vont continuer à être envoyés à l'étranger, bien sûr, mais au lieu que les gens partent chaque fois pour des formations à l'étranger, on peut les former localement pour toute la région au niveau du Sénégal. Donc c'est un centre qui vient d'être inauguré pendant mon absence en fait ce mois, au début de ce mois. C'est un centre qui vient d'être inauguré à Thiès et qui va commencer à fonctionner bientôt.
Qui va recevoir quel type d'étudiants? C'est des étudiants spéciaux quand même?
Non, les étudiants spéciaux, quand nous travaillons avec des partenaires, ces questions, comme je dis, c'est un partenariat. Donc si vous, le Sénégal, vous nous envoyez deux ou trois étudiants, si le Mali envoie deux ou trois étudiants, c'est un centre régional, ce n'est pas un centre américain.
Et on les forme à quoi?
C'est un centre régional de formation, dans tous les éléments qu'on a pour lutter contre le terrorisme. Comme je disais, on vient seulement d'une donc on n'a pas encore commencé.
Mais le Sénégal, en fait, pour le moment, est à l'abri. Il n'y a pas encore d'attaque terroriste. Pourquoi pas au Mali, ni au Burkina Faso, ni au Niger?
Quand nous cherchons à travailler avec des partenaires, on travaille avec tous les partenaires. Le centre pouvait être n'importe où, comme vous l'avez dit. Pour le moment, nous avons décidé avec le Sénégal que le Sénégal allait abriter ce centre. Et puis, entre les deux pays, nous nous sommes mis d'accord. Nous avons trouvé un site. Et on a commencé la construction et on vient tout de suite ce mois, au début de ce mois, d'inaugurer le centre. Tous les détails vont venir après, j'espère.
C'était Tulinabo Mushengi, ambassadeur des États-Unis au Sénégal.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24.
Au Sénégal, un hommage national a été rendu à Bruno Diatta, ministre chef du protocole de la présidence depuis 41 ans, il a servi sous les quatre présidents du Sénégal indépendant. Pour ses innombrables services, Bruno Diatta a été élevé à titre posthume à la dignité de Grand Croix de l'Ordre national du Lion. Un ultime hommage lui a ensuite été rendu par la nation avec les honneurs militaires à Dakar. Reportage de Sedina Abagay, correspondant de VOA Afrique au Sénégal.
Présenté. Oh. Lors d'une cérémonie empreinte de solennité et de sobriété, la République entière s'est donné rendez-vous devant les grilles du palais présidentiel pour dire adieu à une icône de la nation. À travers son parcours, ses compétences et son sens élevé du devoir, le ministre Bruno Diatta est parvenu à traverser sans remous les différents changements au sommet de l'État. Prononçant l'oraison funèbre, le président Macky Sall a tenu à saluer la mémoire d'un homme d'État d'une dimension exceptionnelle.
Notre perte est immense et notre douleur infinie. La nation est frappée au cœur parce que le ministre Bruno Diatta était un homme de synthèse. Il symbolisait si bien ce qui nous unit et nous rassemble par-delà nos différences et nos diversités. Mais lui, dans un calme olympien, tenait toujours au respect des normes, sans gestes déplacés ni violence verbale. Bruno savait trouver le mot juste. Il avait le sens de la formule pour rappeler les uns à l'ordre et conseiller les autres aux usages de l'État et de la République.
Également présente, la famille de Bruno Diatta était marquée par l'émotion et la tristesse. Venu de France pour assister aux obsèques, son cousin Vincent Correa décrit Bruno comme un homme sociable et courtois.
Et c'était quelqu'un de très poli, très disponible et qui a toujours œuvré pour le pays. Parce que Bruno a fait un travail remarquable dans ce pays. Et tout bon Sénégalais doit rendre hommage à Bruno, quelle que soit sa religion, quelle que soit son ethnie. Tout le peuple sénégalais, de Saint-Louis à Casamance, du sud au nord, tout le monde doit rendre hommage à Bruno. Et aujourd'hui, je viens pour m'incliner devant sa tombe et demander à Dieu de le recevoir dans son paradis.
Au-delà des autorités et de sa famille, des Sénégalais lambda sont venus en masse pour rendre un dernier hommage au ministre Bruno Diatta. Pour Matamba, le défunt chef de protocole de la présidence était une source de motivation pour la jeunesse sénégalaise.
Si on a laissé nos boulots, tout pour venir ici accompagner Bruno, c'est parce que c'est un grand homme. Chaque jeune Sénégalais, chaque cadre qui est dans l'administration privée ou publique, ou bien même les entrepreneurs qui sont là en train de travailler, les marchands, tout le monde devrait prendre l'exemple sur Bruno. Parce qu'il incarne tout. Il est respectueux, calme, effacé. Il fait son boulot correctement. 4 présidents, un seul chef de protocole. Ça, Bruno, c'est un grand homme.
Pour marquer la reconnaissance de la nation et la postérité, la salle du Conseil des ministres et le grand amphithéâtre de l'École nationale d'administration, ENA, porteront désormais le nom de Bruno Diatta. De même, l'État accompagnera la réalisation du projet d'académie du protocole voulu par le défunt. Après avoir reçu un ultime hommage et une messe à la cathédrale de Dakar, Bruno Diatta repose pour l'éternité au cimetière catholique de Bel Air. À Dakar, Seydina Abagui pour VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Au Tchad, 3 semaines après la rentrée académique, les étudiants renouent avec la grève. Ils ont suspendu les cours pour revendiquer de meilleures conditions d'études. Les employés du Centre national des œuvres universitaires menacent aussi d'aller en grève pour exiger le paiement de 4 mois d'arriérés de salaire. Le point avec André Kodmadjingar, correspondant de VOA Afrique au Tchad.
Supprimé en 2016 pour une période de 18 mois pour être injecté dans les œuvres universitaires selon les autorités en charge de l'enseignement supérieur, la bourse d'études des étudiants internes et les primes de recherche ont toujours été à l'origine des débrayages des étudiants et professeurs, occasionnant ainsi l'élaticité de l'année académique. 2 ans après cette promesse, le jeune Tchadien qui aspire poursuivre leurs études supérieures et étudie dans des conditions très difficiles, décide après 72 heures de préavis de grève de passer à une vitesse supérieure. Frédéric Raïkna Bialoum est le secrétaire général de l'Union national des étudiants tchadiens.
Les universités sur le plan national fonctionnent sans restaurants, sans bus et les bibliothèques, les laboratoires, rien ne fonctionne sur le plan national. Depuis la reprise des cours, on constate qu'il n'y a que 2 ou 3 bus qui circulent, alors que sur le plan national, nous avons au moins une trentaine de bus et surtout l'université N'Djamena a 22 bus. Mais jusqu'à là, il n'y a seulement que 4 ou 5 bus qui circulent à N'Djamena. Nous réclamons aussi la bourse d'équipement de l'année 2015-2016 que jusqu'à là reste sans payer. Maintenant, les étudiants sont sur la route, c'est pour dire que les cours sont suspendus. Tout ça, ça se passe.
Les employés du Centre national des œuvres universitaires accusent 4 mois d'arriéré de salaire. Ils menacent eux aussi d'observer un arrêt de travail à partir de lundi prochain pour exiger le paiement de l'heure due. Pour Diamadibé Ngaressom, porte-parole des agents contractuels du CENU, la situation est intenable.
Jusqu'au lundi, si rien ne se fait, nous entrerons dans une grève illimitée. Le chauffeur qui transporte les étudiants, là, ça fait 4 mois qu'il n'a pas touché son salaire. Beaucoup de nos collègues sont renvoyés des maisons, certains n'ont même pas de carburant pour sortir. Il y a beaucoup de difficultés. Et ce qui est aberrant, les gens qui sont en grève, on les paye normalement leur salaire. Alors que nous, pendant le temps de grève, on a travaillé normalement. Cette fois-ci, on est dépassé.
Le directeur général du Centre national des œuvres universitaires rassure les étudiants et le personnel de son institution que les démarches sont en cours pour décanter la situation. Hamid Haroun les invite à une prise de conscience.
Les étudiants ont certes déposé un préavis de grève et on a pu quand même mettre les bus en marche. Et au fur et à mesure, les restaurations aussi, les prestataires vont préparer à manger pour les étudiants. N'oubliez pas que c'est 41 000 étudiants qui doivent se restaurer des repas par jour. Et on a 27 sites de restauration. Le chef d'État a instruit qu'on doit mettre l'électricité et l'eau au campus de Toukra. Et après, on fera le reste. Donc on attend.
Ces étudiants dénoncent également le taux d'inscription qui passe de 28 000 à 50 000 francs CFA pour les nouveaux et 1 000 francs à 28 000 francs CFA pour les anciens. Ils disent ne pas comprendre que le gouvernement supprime la bourse et augmente les droits universitaires. André Kodma Dingar Ndjamena, VO Afrique.
VO Afrique, Ndjamena, c'est 93.1 FM au Tchad.
Pas moins de 67 morts au Niger tués par l'épidémie de choléra. Plusieurs milliers de malades ont par ailleurs été recensés principalement dans la région de Maradi proche du Nigeria. C'est ce qu'a annoncé l'ONU ce jeudi en citant un rapport du ministère nigérien de la Santé. Niamey avertit que l'épidémie s'est déjà propagée à d'autres régions du pays. Joint par téléphone, le docteur Idi Ilyasu Mainasara, ministre de la Santé du Niger, est revenu avec John Linden sur les mesures prises par le gouvernement pour faire face à cette épidémie.
Effectivement, cette épidémie qui a commencé le 5 juillet 2018, donc déjà avant même que les premiers cas ne surviennent, connaissant bien la zone qui est exposée, parce que c'est pendant la saison pluvieuse, généralement, on a parfois des cas sporadiques, parfois des cas de flambées. On a pris des dispositions pour positionner des entrants au niveau de cette région de Maradi. Et les entrants, c'est les différents kits de prise en charge du choléra, les différents kits de chloration de l'eau, les kits de sensibilisation de la population avec l'appui des partenaires, comme par exemple l'Organisation mondiale de la santé, Médecins sans frontières, la coopération italienne, la coopération espagnole et la Croix-Rouge internationale. En tout cas, tous ceux qui accompagnent le gouvernement du Niger en matière de gestion de phénomènes sanitaires ont été impliqués. Et c'est ce qui nous a permis de positionner avant même le début, puisqu'il y a eu les prévisions météorologiques qui ont parlé des séries d'inondations en Afrique et particulièrement au niveau de notre pays. Je vous signale que les premiers cas de choléra viennent en tout cas d'un pays frontalier du Niger.
Vous avez lancé une campagne de sensibilisation dans les médias locaux. Est-ce que vous avez le sentiment que le message passe auprès des populations?
Oui, le message a complètement passé. Je dirais que c'est un réel motif de satisfaction pour le gouvernement et pour nous, le ministère de la Santé publique, parce que ce que les jeunes ne disent pas, à la date d'aujourd'hui, nous avons enregistré 3275 cas, 55 décès avec un taux de létalité de 1,2%, ce qui est quand même important. Mais il y a plus de 3175 personnes qui sont traitées et guéries. Actuellement, nous avons moins de 50 malades sur les différents sites de prise en charge de ces cas de maladie. Ça veut dire que la gestion non seulement a été efficace et la riposte a été prompte et rationnelle.
Pour terminer, est-ce que vous avez un appel à lancer à l'endroit de la communauté internationale ou de vos partenaires?
Oui, l'appel que nous lançons à la communauté internationale et en particulier aux partenaires du Niger, c'est de continuer l'appui Même hier, nous avons réceptionné un kit important de l'eau de prise en charge du choléra par l'OMS. La semaine passée, j'ai réceptionné un autre lot en provenance directement de l'Italie. Et je profite de l'occasion pour remercier tous les partenaires du système des Nations Unies, tous les partenaires techniques et financiers qui accompagnent le gouvernement du Niger dans le cadre de la gestion des crises, mais également dans le cadre de l'amélioration de la santé de la population de façon générale.
Le docteur Idi Ilyasu Maina Sara, ministre de la Santé du Niger.
Dans la prochaine édition de Votre Santé, Votre Avenir, nous parlerons de lutte contre le VIH-Sida et du phénomène des perdus de vue.
Il s'agit des personnes dépistées positives et qui ne sont pas revenues en consultation depuis plusieurs mois avant ou après avoir commencé le traitement.
Pour comprendre les raisons d'être de ce phénomène, nous recevrons comme invité Israël Ganoé, secrétaire général du réseau ouest-africain des organisations des personnes vivant avec le VIH-Sida.
Nous écouterons aussi le docteur Frank Kassissa, médecin généraliste en RDC. Il nous parlera des conséquences pour ceux qui ne prennent pas ou arrêtent de prendre leur traitement.
Votre santé, votre avenir est un programme de VOA Afrique diffusé les samedis, dimanches et mercredis à 8h30, temps universel.
Ne manquez pas le rendez-vous.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi à la console Greg Burns. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction et Drissa Sedoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.